Donc je vous remercie d'être venus si nombreux soutenir les illustrateurs de l'imaginaire. Merci. On va pouvoir parler avec chacun d'entre eux de leur travail, de leur façon dont ils sont perçus par les professionnels et par le nombreux public. Donc nous allons découvrir, en partant de la gauche, donc mademoiselle Christelle Pécou, qui travaille en bande dessinée essentiellement. Elle va nous en parler un petit peu plus longuement après. Suivi de Fabien Fernandez, qui n'en est pas à sa première année des Imaginales, et qui va nous parler donc de son métier d'illustrateur, un petit peu tout support, et de ses différentes casquettes, si j'ai bien compris. Et ensuite, donc, mademoiselle Elvire de Coq, qui a de multiples casquettes autour de la bande dessinée essentiellement, et qui va nous parler de son travail et de sa façon d'appréhender ce si joli métier, si unanimement apprécié. Donc, juste une petite parenthèse, moi c'était sur le titre de la table ronde en fait, hein, parce que quand j'ai vu le titre de la table ronde, je me suis dit, bon, parce que quand à chaque fois qu'on parle un petit peu des illustrateurs ou que les illustrateurs parlent de leur métier, il y a souvent des polémiques qui viennent assez rapidement quand même sur la table. Et au début, je me suis dit, quel angle on va pouvoir aborder sur cette table ronde pour que la polémique ne jaillisse pas tout de suite, mais jaillisse quand même un petit peu. Et puis après, j'ai juste relu le titre et je me suis dit, mais la polémique, elle est déjà là, en fait. Elle est dans le titre même, en fait. Hein. Parce que l'imaginaire, c'est aussi l'image. Pour moi, ça sous-entendait déjà quelque chose d'énorme, et je ne sais pas si vous le ressentez, mais je ressens le titre dans la salle même aujourd'hui. Vous voyez, cette l'ironie du titre, je la ressens vraiment aujourd'hui lors de notre conférence. Donc, savoir effectivement si l'imaginaire c'est aussi l'image. On va parler des métiers de chacun, sa façon d'appréhender son travail, la façon de commencer, et pourquoi avoir commencé dans l'imaginaire par l'image, ou est-ce que c'est l'image qui t'a amené à l'imaginaire, ou est-ce que c'est en premier l'imaginaire qui t'a amené obligatoirement à l'image, par exemple Christelle.
Oui, je pense qu'effectivement, c'est l'imaginaire qui vient en premier, puisque quand on est petit, on s'ennuie. Donc, ce qu'on fait, on lit, on dessine. Donc, oui, je pense qu'effectivement, ça vient surtout de l'imaginaire d'abord. Et après vient la façon de s'exprimer dans ce domaine-là, donc que ce soit le dessin, l'écriture pour d'autres. Bon, moi, il se trouve que c'est plutôt le dessin et la lecture. Donc, oui, effectivement, je pense que ça passe par là. Ouais.
Par l'imaginaire, mais alors, par exemple, la perception que l'on a de notre monde à travers les images, enfin, Elvire, peut-être, je ne sais pas si. Comment s'est perçue, toi, cette première approche de l'image? Parce que quand on est sensible à l'image, on pourrait uniquement, par exemple, se dire, bah, tiens, moi, mon rêve, c'est d'être illustrateur publicitaire et de dessiner des tubes de dentifrice et des voitures toute la journée. Pourquoi, après ou avant, vient se broder l'imaginaire?
C'est très concret, c'est pas très imaginatif, c'est très concret, quoi, justement. C'est peut-être trop le quotidien, peut-être.
Alors, comment c'est venu, ça, par exemple, Elvire? Je sais pas comment.
Ben, je pense un petit peu comme Christelle, donc que c'est un des modes d'expression des choses qu'on a dans la tête, hein, et que c'est une manière effectivement de raconter ce qu'on a dans la tête via le dessin. Pour nous, c'était le dessin, parce que pour d'autres, c'est l'écriture, mais c'est. Oui, après, c'est comme nous, on est dans le travail, on a les dessins, les choses qu'on fait pour nous, les projets perso et tout, mais après, effectivement, on a un client, donc on doit aussi représenter l'imaginaire de quelqu'un d'autre via les couvertures, ou même quand en bande dessinée, on travaille avec un scénariste, mais tout en cultivant son propre style, mais qui ne fait pas forcément partie de son imaginaire. Ouais, non, c'est difficile. Enfin, les deux sont interconnectés de toute façon.
Salut, Yuleuse.
Bonsoir.
Illustrateur célébrissime.
On peut parler plus fort.
Bonjour, je ne voulais pas les réveiller.
Bonsoir, par épineur.
Donc, on se demandait. On va poser la question à Fabien et tu répondras après, à savoir, parce que le titre donc, de la conférence, à savoir l'imaginaire, c'est aussi l'image. Donc savoir comment ça a commencé en fait pour chacun d'entre vous, savoir si c'est l'image, l'envie de dessiner qui a déclenché ensuite, ou si c'est le fait d'imaginer des choses et qui soit passer par le dessin en tant que vecteur, en fait. Donc Fabien, par exemple, et puis Aprilios.
Je vais parler fort dans le micro parce que.
Ouais, parce que comme ça, on va dire qu'on est en train on est obligé de couvrir le brouhaha du public.
Voilà. Et en fait, je pense que c'est psychologiquement logique. On a des trucs dans la tête et on a besoin de les exprimer. Et bon, je pense que pour les illustrateurs, au sens large, on le met sur papier, quoi, globalement. Et donc c'est l'imaginaire avant le besoin de le représenter, quoi. Je sais pas si je suis clair. En même temps, on s'en fout.
C'est vague l'imaginaire.
Mais oui, enfin, le truc c'est de dire l'imaginaire c'est aussi l'image. Pour répondre plus directement à la question, c'est l'imaginaire c'est déjà l'image. Parce que c'est le côté image est immédiat. Si on prend le cadre du livre qui est le cadre des imaginales principalement. On a l'image qui va être l'image de couverture, pour faire simple, et ensuite on a l'écrit. Donc on passe d'un imaginaire à l'autre parce que. Ben voilà, c'est ce que j'avais à dire pour l'instant.
Oui, bah évidemment, le texte nous fait penser à des images, et des images peuvent nous faire penser à un fil conducteur aussi imaginaire, chacun peut se faire sa petite histoire. Moi, pour ma part, l'imaginaire, c'est venu à travers la bande dessinée, le cinéma enfant. Ça nous a bercé étant tout petit. Donc finalement, on est en plus une génération où l'image est quand même importante. Donc, ouais, on a toujours été dedans, quoi, quelque part, quoi. C'est pas... Y a pas à se forcer pour imaginer des dragons. N'importe qui peut tout de suite avoir une image de dragon rouge dans la tête, tu vois.
Mais moi, quand je vous entends, ce qui me fait un petit peu une sensation un peu étrange, c'est justement par rapport au titre de la conférence, à savoir c'est aussi l'image, en fait. Fabien, comme toi, comme Elvire, comme Christelle, dites en premier que finalement l'imaginaire, c'est en premier l'image,
ouais,
en fait.
C'est ce qui est le plus direct.
Et moi, je trouve que ce qui ressort de certains salons et puis de la présence du, enfin de la comment dirais-je, peut-être c'est une question de politique aussi, hein, la façon dont on a d'appréhender le livre, en fait, c'est pas d'abord l'image, on est d'accord, peut-être la preuve encore aujourd'hui.
Mais je pense aussi que ça vient du fait que, par exemple, quand on lit un livre, chacun imagine sa propre vision du héros, par exemple. Donc, et après, comme quand il y a une adaptation en film, tout le monde glose sur l'adaptation, parce qu'on dit oui, mais machin, je n'imaginais pas comme ça. Et en fait, je pense que, du coup, comme on a tous quelque chose dans la tête de différent, on a toujours du mal à se retrouver autour d'une image commune, alors que sur un texte, je pense que c'est plus facile de se retrouver. Je sais pas.
Moi, je pense toujours au petit chaperon rouge, quoi, comme racontait ma maman. Tu vois, à la fin, il tue le loup, il l'éventre, et t'es obligé d'avoir cette image-là pour avoir peur, quoi. Donc, même si tu ne l'as pas devant toi, l'image directement, elle est forcément présente. Sinon, tu as du mal aussi à t'identifier à un texte, quelque part. Ou une comptine, ou n'importe quoi. C'est ce qui fait que ça te marque aussi, quoi.
Petite chose à rajouter, peut-être, sur ce... On va revenir, parce que j'aimerais bien tourner autour de cette notion, moi, encore. Mais bon, en premier, sur vos parcours, par exemple. Alors, comment ça se passe au niveau des métiers plutôt terre-à-terre, là, du coup parce que... Comment est considérée l'image, même en tant qu'illustrateur? Quand on est illustrateur, qu'on a envie d'en faire un métier, finalement, comment est-ce qu'on est considéré? Enfin, comment est-ce qu'on est positionné? Moi, je dis souvent, on dessine des Mickey, donc c'est pas... parce que c'est un petit peu, des fois, l'opinion que nous renvoient les autres. Alors, comment ça se passe pour chacun d'entre vous?
Ça, c'est une image
d'Épinal. On peut. C'est aujourd'hui ou jamais.
Voilà, mais en même temps, ça c'est normal, les gens ils pensent à ça, c'est pas très très grave non plus. En même temps, ça veut quand même dire que, bon, moi j'aime pas trop, mais c'est vrai que Disney les a fait vachement rêver aussi, je pense que ça a marqué une génération, donc voilà. Mon parcours. Moi j'ai fait du stylisme avant, en fait. Et en fait, j'ai réalisé que je voulais raconter des histoires pour habiller mon dessin, donc je suis passée par Angoulême, l'école des Beaux-Arts. Et voilà, j'ai fait mes 3 ans, j'ai passé mon diplôme et tout, et puis après je suis sortie de l'école, et puis je me suis dit, ah, mais peut-être c'est un peu tôt pour se lancer, et puis j'avais envie de... de gagner des sous et tout machin. Donc j'ai fait de la bulle internet à l'époque, et voilà. Et après, au bout d'un an, j'en ai marre et je suis revenue à la BD. Et en fait, on peut pas y échapper, en fait, finalement. Quand c'est une passion, je pense qu'on est obligé d'y revenir à un moment donné. Et ça nous rattrape forcément. Voilà.
Ben moi, enfin ouais, un peu pareil que Christelle, je n'ai pas réussi à y échapper aussi. Hein. Voilà, parce que ben, je dessinais depuis petite, pas forcément en registre, pour parler du dessin imaginaire, je faisais du dessin académique. Donc quelque chose qui est plus basé sur le modèle vivant, quelque chose vraiment où c'est juste l'observation, et bon, après on développe un trait, mais c'était quelque chose d'assez neutre. Et voilà, j'étais persuadée que ça me faisait très plaisir de dessiner, mais que c'était pas un vrai métier et qu'il fallait trouver un vrai métier. Puis il y avait d'autres choses que j'aimais bien. Et donc j'ai essayé de faire d'autres études, et le dessin m'a rattrapé malgré moi. Et le dessin qui est greffé sur un imaginaire où on raconte des histoires est venu beaucoup plus tardivement. Et à partir du moment effectivement où j'ai découvert ça, bah, je ne pouvais pas m'en empêcher, quoi. J'avais envie de dessiner, j'avais envie de raconter des histoires. Au début, c'était mes propres histoires. Et puis, des trucs alambiqués, quoi. Enfin, mais des machins comme on commence, quoi. Et puis, fur et à mesure, ben, c'est devenu aussi un vrai métier. Et puis, j'ai fait 3 ans, moi, à Saint-Luc, à Bruxelles, après avoir essayé de faire un an d'ingénieur civil pour construire des ponts et 2 ans d'archi, et ça n'allait pas. Et voilà, et donc je me retrouve là, et j'adore ce métier, et c'est pas tous les jours, mais c'est mon mode d'expression. Et même quand je dessine quelque chose qui est peut-être un boulot de commande, ou j'illustre quelque chose qui est dans la tête de quelqu'un d'autre, ben, j'aime beaucoup, quoi. Donc,
moi je suis comme les deux demoiselles, je suis un toxico de l'image, genre voilà, je m'appelle Fabien. Et
chaud.
Le parcours est presque similaire. Disons que j'ai commencé, j'étais super bon en dessin quand j'étais petit. Et au collège j'étais super bon, j'ai des super notes, et je me suis dit super, un boulot de feignant. Et en fait, après, j'ai fait une école d'art appliqué, et c'était loin d'être fabuleux. Et je me suis rendu compte que c'était un vrai métier. Et fur et à mesure, en fait, c'est l'envie, en effet, de raconter quelque chose. Donc, il se trouve que c'est l'image. Moi, j'ai aussi d'autres moyens qui sont le texte, qui sont... voilà. Et en parallèle de tout ça, ce qui m'a porté peut-être plus vers l'imaginaire, c'est que je pratique le jeu de rôle depuis pas mal d'années. Donc, ce qui est un vecteur d'imaginaire supplémentaire. Et à l'heure actuelle, je suis illustrateur professionnel, et comme tout le monde, c'est un vrai métier avec des contraintes. Et d'ailleurs, je pense que le métier d'illustrateur se définit aussi par le fait qu'il y ait des contraintes. Sinon, si on est peut-être plus plasticien et plus libre dans son expression. Voilà.
Ça marche pas. Marche. Ouais. Ben moi j'ai un cursus un peu chaotique. Je taguais le garage de mes parents à 10 ans. J'étais un peu j'étais un peu le perturbateur de la classe. Donc ouais, il fallait quand même canaliser. Et j'ai toujours aimé le dessin. Donc rapidement j'ai pris un cursus de dessinateur d'exécution en publicité, quoi, un CAP. Après j'ai fait mon bac pro, les beaux-arts, mais bon, finalement j'ai appris. Oui, l'art appliqué, quoi, on va dire, mais pas le métier d'illustrateur. Ça, c'est venu vraiment sur le tas et sur le tard, parce que oui, à force de faire des boulots qui me plaisaient pas d'intérim, je me suis dit bon, qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie? Et je me suis enfermé pendant 5 ans. J'avais le RMI, et je bossais 16 heures par jour, et j'envoyais des dossiers à des éditeurs. Tu te rappelles que j'ai eu pré-artefact alors que, tu vois, j'étais au RMI, j'avais toujours pas de clients. Ce qui était en plus très ambivalent, un peu bizarre en plus pour moi à vivre, quoi. D'avoir une reconnaissance alors qu'on n'est même pas encore un pied dans le métier. Et derrière, les choses se sont débloquées, et je suis ravi évidemment. C'est un métier compliqué, dur de tous les jours. pas avec forcément une reconnaissance nécessaire, pas avec un statut qui nous permet d'être stable, stabilisé, d'avoir un crédit pour acheter une maison, par exemple. Parce que bon, si on peut rentrer aussi là-dedans, parce que ça peut être, il faut. Après le métier, moi je suis plutôt illustrateur, donc je fais plutôt une commande d'une image, quoi. Moi, c'est que j'aime bien plus bosser rapidement, j'ai pas les épaules pour faire une BD pendant 2 ans. Et je pense que de toute façon, je ne mènerai pas à bout le projet. Ça, je le ferai, mais seul, mais ça prendra 10 ans pour faire une BD, quoi. Donc de toute façon, toutes les propositions, je les refuse. Mais bon, l'illustration, ça peut être vague, ça peut être du roman. Couverture de roman, ça peut être couverture de jeu de rôle, ça peut être des cartes Magic. Je bosse aussi pour le jeu vidéo, pour Ubisoft. J'ai aussi un peu bossé pour Marvel, couverture pour Ubisoft, Total Mayhem pour Marvel. Et c'est vrai que les contraintes, de toute façon, ne sont pas du tout les mêmes. Évidemment, que ce soit pour la BD, l'illustration, pour le jeu vidéo, ou pour le jeu de rôle, ça change vraiment du tout au tout, quoi. Après, dans le détail, je sais pas, vous, peut-être.
Parle au micro.
Dans le détail
de comment ça se passe
quand tu te lèves le matin.
Sur les différences, ouais, mais par exemple, avec Christelle, vous êtes, enfin Christelle et Elvire, vous êtes plus à fond bande dessinée, on est d'accord?
Oui, mais enfin, moi par exemple, en ce moment, j'en ai pas, là, je cherche une nouvelle BD. Hein.
Alors quand tu dis tu en as pas, c'est donc
j'en ai pas en cours, en fait.
Oui, mais ça veut dire que c'est tu n'as pas de tu soumets pas des projets toi-même, ou est-ce que tu sollicites des auteurs?
Je suis un peu dans un virage un petit peu agaçant, on va dire, parce que là j'ai fait 5 albums de bande dessinée avec des scénaristes, voilà, ça s'est bien passé et tout, chez Humano et chez Dupuis, et là en fait moi j'ai quand même envie de me lancer toute seule depuis un certain temps. Et j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Je pense que je commence ma fameuse période des 5 ans là-dessus. Je pense que ça va pas durer 5 ans parce que je pourrais pas non plus. Hein. Mais bon, c'est vrai que du coup, là, je continue quand même à essayer de faire des choses avec d'autres personnes. Mais là, j'ai atteint un seuil où j'ai vraiment envie de faire les choses toute seule. Et... Donc voilà, bon, c'est un petit peu difficile. Mais bon, je pense que le métier d'illustrateur ou le métier dans la bande dessinée, c'est vraiment des métiers d'endurance. Il faut s'accrocher, quoi.
Puis il faut être cumulard, quoi.
Voilà, il faut accepter des choses aussi à côté. C'est pas facile tous les jours. On est son propre maître, mais on est aussi son propre esclave. Voilà. C'est vraiment un double tranchant. En plus, c'est une passion. Et puis, le jour où ça marche vraiment plus, on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire après, quoi. Puisque c'est ma passion, et si j'arrête. Voilà. Donc, ça, c'est toujours un peu. Les gens disent, ah, mais tu fais un boulot super, je travaille chez toi et tout. Mais c'est pas tous les jours.
Ouais, on veut le statut d'intermittent.
Oui, c'est vrai que ça serait vraiment super.
C'est enregistré.
J'espère bien.
Elvire, sur le fait de les histoires, les difficultés, par exemple, à mener un projet complet en bande dessinée.
En BD, j'ai des albums aux Humano. Là, pour le moment, je travaille sur une bande dessinée. C'est un peu comme une espèce de renaissance parce que j'en ai pas fait pendant 4 ans. Parce que la série avant, c'est pas terminé, et donc effectivement, pendant 4 ans, j'ai essayé de monter des projets, je les ai pas signés, il fallait rebondir. Donc du coup, c'est à la fois positif, enfin, c'était pas cool que la série soit arrêtée, parce que j'ai arrêté de faire la bande dessinée, et c'est ça que je préfère, mais en même temps, ça m'a permis de découvrir d'autres modes d'expression, et notamment, effectivement, je me suis aperçue que j'aimais vraiment l'illustration, j'ai fait un petit peu d'illustration jeunesse. Il y a un truc qui m'a beaucoup appris aussi, donc c'est j'ai bossé comme coloriste parce que c'était plus facile de trouver des contrats de coloriste que de casser un contrat BD. Effectivement, là encore, c'est encore une autre démarche coloriste parce qu'on met en couleur les dessins de quelqu'un d'autre, donc on doit à la fois un peu effacer sa personnalité, mais quand même réussir à booster le dessin, donc c'est encore
une fois du boulot.
Non.
Le parent pauvre de la BD, comme juste.
Voilà. En plus, le coloriste, en général,
c'est pas sur la coupe.
Il est cité. Le petit nom comme ça, et puis en général on dit ah, salut, j'ai un truc, une BD, il faut mettre en couleur, ouais cool, écoute, c'est pour dans un mois, oh, D'accord. Donc, bon, c'est vraiment le dernier bout du carrosse. Mais ben, du coup, j'ai fait un peu d'illustration, j'ai fait coloriste, et jeunesse. Et donc, c'était intéressant. Et là, maintenant, je refais de la BD et je souris et je sentis des yeux à chaque planche. Enfin, toujours, mais ça me fait vraiment... tout en ayant apprécié de faire le reste et en essayant maintenant de conjuguer un peu les deux, mais tout simplement parce que la BD actuellement c'est un truc qui claque d'un coup, on pense que ça marche et d'un coup ça marche plus du tout parce que ils ont décidé d'arrêter la BD en plein milieu, parce qu'ils vont pas sortir le tome 2, c'est du jour au lendemain, donc on est obligé d'avoir des trucs à côté quoi. Et en fait moi ce que je trouve le plus difficile dans notre métier, c'est qu'on n'est jamais aussi bon quand on a une certaine insouciance, qu'on peut voilà, faire des trucs sans avoir le stress derrière. Et le problème, c'est qu'effectivement, quand on est toujours à chercher
du boulot
et tout, ouais, voilà, et ben, c'est difficile de réussir à la trouver, des fois, cette insouciance-là. Mais bon, on réussit à s'aménager des plages d'insouciance et d'autres, peut-être un petit peu plus, difficiles, mais qui apprennent des trucs aussi. Enfin, même un boulot chiant, ben, à un moment donné, il va y avoir un truc et on va se dire « Ah bah ouais, bah, ça valait la peine de le faire quand même. »
Maintenant, j'aimerais vous parler, vous poser deux petites questions. C'est traditionnel ou numérique? Et ensuite, votre opinion sur les droits d'auteur numériques. Bon, en ce moment, on l'entend beaucoup par rapport aux auteurs, en fait. Mais en tant qu'image, c'est vrai que, comme tu disais Fabien, un clic droit, c'est facile, l'image a disparu ou elle est passée d'un PC à un autre. Quelle est votre opinion là-dessus? Parce qu'on peut pas protéger nos images, ça c'est juste pas, enfin pour moi c'est pas possible. Voilà. Donc traditionnel, numérique et ensuite droit d'auteur.
Alors pour déjà l'illustration sur Internet, moi ça ne me dérange pas du tout qu'on fasse un clic droit. Moi je suis premier à faire des dossiers énormes de des artistes où j'en range bien, tout comme il faut, avec les périodes et tout. Et vraiment oui, parce que...
Tu les envoies tes dossiers.
Ouais, ouais, si tu veux, ouais, parce que c'est vraiment des années de recherche, c'est le Saint Graal quoi. Non, moi ça ne me dérange pas, au contraire, je ne cherche pas à bloquer mes images sur le net. Après, le principe du net, les gens ils pensent que puisqu'ils font un clic droit, ils peuvent l'avoir, et ils peuvent l'imprimer, alors que c'est faux, c'est pas les HD. Donc à partir de ce moment-là, on est déjà protégé à moins qu'on mette en ligne les HD et les gros formats. Donc je pense que là-dessus on est relativement protégé. Après pour les droits d'auteur, ouais là ça se complique. Évidemment, moi j'ai fait aussi un livre illustré, même deux, trois même, et donc là oui je suis complètement dedans. Et genre un éditeur qui m'avait payé qu'en avaloir, je le savais pas, faut que je rattende encore 15 ans pour commencer à toucher mon premier centime de droit d'auteur, tu vois. Donc quand t'as compris ça, une fois que t'as fini le boulot, tu te dis « Ah oui, bon, voilà quoi, tu t'es fait un peu maître là sur ce coup-là. » Voilà.
Alors, tradi ou numérique, en fait, je crois qu'on s'en fout. Je crois que, enfin, en tout cas pour moi, seul le résultat compte. Donc, à la limite, je pratique les deux, d'un projet à l'autre, on change facilement. Voilà. Des fois, on va avoir une facilité à passer au numérique parce que c'est peut-être plus rapide pour certains projets. Mais franchement, pour moi, il n'y a que le résultat qui compte. Pour les droits numériques, je viens d'intégrer le conseil d'administration de la charte et auteur illustrateur jeunesse, qui est une association loi 1901 qui est là pour...
Intégrer le conseil d'administration.
Je suis administrateur officiel de la charte.
Comment ça se goupille ça le...
Alors en fait c'est une association donc...
Je suis adhérent moi, de la charte, mais comment on est dans le conseil d'administration?
On propose sa candidature et puis un vote.
D'accord.
Donc à partir de là, en fait, moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce qui m'a intéressé, c'est d'intégrer ce conseil justement pour, outre avoir un avis décisionnel, avoir plus d'informations, savoir ce qui se passe vraiment et savoir comment on peut agir dans un sens ou l'autre pour le droit. En l'occurrence, le droit numérique, qui est un débat très très fort en ce moment. J'ai entendu beaucoup de choses aussi, pas que sur le droit numérique. Parce que l'avantage de la charte aussi, c'est qu'on se rencontre en AG, donc on confronte aussi des expériences. Juste pour un exemple, il y a souvent dans les clauses de contrat pour les auteurs, vous pouvez reprendre votre droit s'il n'y a plus de stock, s'il n'est plus exploité. J'ai appris récemment que certains gros éditeurs
finissaient pas le stock.
On garde 5 exemplaires de côté, le mettre sur l'étagère, comme ça le stock n'est jamais suivi. Fini. Donc, c'est des choses comme ça, donc je ne sais pas pourquoi je disais ça, mais c'est pas grave. Pour le droit numérique, en l'occurrence, on a fait un grand pas en tant qu'auteur et en tant qu'illustrateur, parce que je pense que ça se rejoint, dans la mesure où on a amené les éditeurs à la table des négociations. Et ça, c'était pas fait avant. C'était eux, ils s'étaient même pas posé la question. Ils sont même étonnés de venir là pour négocier.
Moi, je vais aller un petit peu plus loin sur la question de Gilles. En fait, c'est apparemment, c'est sur les œuvres qui vont se faire numériser, qui ne l'étaient pas avant. Et tout ce qui était antérieur à apparemment, à ce que j'ai compris, 2001, allait du coup, les droits numériques n'allaient plus revenir aux auteurs, qu'ils soient.
D'après ce que j'ai compris, en effet, il y a une date, je ne sais plus exactement laquelle.
Donc c'est Google qui se récupère des.
Non, alors c'est différent, c'est les droits d'exploitation. C'est-à-dire si le livre n'est plus exploité depuis une certaine date, il tombe dans une espèce de domaine public et tout le monde peut récupérer. Mais je ne suis pas sûr que ça touche les images. Je pense que c'est uniquement les textes.
Sur les textes. C'est voilà. Les textes, ouais.
C'est que le texte. Ouais.
Mais en effet, je pense qu'à l'heure actuelle, le débat est aussi difficile parce qu'il y a beaucoup de flou. Et je pense, sans taper sur les éditeurs, qu'ils sont très contents qu'il y ait beaucoup de flou, notamment sur pas mal de lois. Mais on avance à petits pas, mais on avance. Et notamment, la charte travaille aussi sur ce qui pourrait être... considéré comme une espèce de contrat cadre qui n'est pas, et qui serait une loi d'exploitation à minima, qui ferait que les éditeurs sont obligés de payer un minimum, en l'occurrence image-texte, en exploitation numérique. Et s'ils arrivent à négocier ça, déjà tous les éditeurs seraient obligés, de par la loi, de payer ce minimum. Après, comme.
Et pour quelle période hein, jusqu'à. Y a toujours un...
En fait, à chaque fois qu'on négocie un contrat, alors déjà. Puisque c'est enregistré, on en profite. Ce qui est important de dire, c'est qu'on soit auteur-illustrateur, quand on signe un contrat, tout est négociable. Il y a... Voilà.
Oui, non, mais je précise jamais parce contrats. Que...
Et donc après, l'idée de ce contrat à minima d'exploitation, si je me souviens bien, ce serait un pourcentage qui serait renégocié 3 ans après, obligatoirement. Ceci dit... À partir de ces 3 ans, il y a un laps de temps qui doit être de 1 an. Passer cette fourchette, on repart sur le contrat qui était déjà.
Alors je pense juste à. Je fais un lien avec d'autres types d'images, en fait, par rapport aux bandes dessinées, par exemple, Christelle ou Elvire. Si vous avez est-ce que vous avez des bandes dessinées qui sont numérisées et téléchargeables sur iPad, par exemple, et qu'est-ce que vous pensez de la lecture sur iPad ou sur autre support, parce que quand j'entends Fabien, je me dis effectivement c'est quand même une levée de bouclier importante sur le droit d'auteur et tout ça, mais honnêtement, quand aujourd'hui je vois les matériaux et les outils offerts pour lire par exemple de l'image, donc de la bande dessinée par exemple sur une liseuse, hein, je parle à peine de l'iPad par exemple, c'est la catastrophe quoi. Donc je sais pas, je me dis tout ça pour ça quoi.
Enfin, moi j'ai eu le problème en question parce que la dernière bande dessinée qu'on avait c'était en 2010 et l'éditeur Dupuis avait lancé avec Mediapart une plateforme d'exploitation Isneo et donc ils nous ont proposé pour faire de la promo autour d'Hypatique de mettre l'album en lecture gratos pendant 40 jours.
À sa sortie.
Et intégralement à sa sortie.
Ah oui.
Donc on a dit non. Hein. Et
c'est bizarre.
Bon, ils l'ont fait quand même parce que c'était quand même un petit peu imposé, quoi. Dans le contrat, c'était pas très clair, c'était dans les droits d'adaptation, dans le $2000, ça va voir, quoi. Donc voilà, depuis, je pense que c'est un petit peu amélioré, mais je sais pas, quand on se souvient le droit de BD, il faut. Il faut quand même vachement regarder, et il y a certains auteurs qui refusent vraiment de signer, enfin, des auteurs qui ont du poids, pardon, qui peuvent refuser d'avoir un contrat numérique. Après, moi je pense que, de toute façon, il faudra bien qu'on y vienne, et d'ailleurs, moi j'ai lu pas mal sur tablette, hein, et j'ai eu l'occasion de lire quelques pages de The Walking Dead sur, sur un iPad, et honnêtement, c'est super confortable.
C'est vrai.
Je pense, ouais. Ah
ouais. Mais une page complète, parce que moi j'ai vu que des cases. Quoi. Je
me dis, le The Walking Dead, c'est un format, les mangas sur, voilà, sur ta
page. Ah oui, oui.
Après, la BD. C'est qu'effectivement, le machin pour le moment, c'est que quand la BD elle est en format papier, si elle se fait numériser, tout ça, donc c'est. Il la balance de manière un petit peu bâtarde, enfin, il la balance telle qu'elle. Ce qu'il y a, c'est qu'idéalement, il faudrait faire un travail d'adaptation.
Oui, un peu de réalité augmentée.
De réalité augmentée, enfin, rendre la BD un chou. Voilà.
Mais ce qui augmenterait le prix du truc, après. Mais parce que quand même, c'est le prix.
Oui, mais en même temps, il n'y aurait pas de prix d'impression. Enfin, moi, le truc actuellement, les droits.
Oui, c'est le stock qui coûte.
Voilà, les droits numériques qu'on signe dans les contrats BD. Maintenant, au niveau des droits d'auteur, c'est exactement les mêmes avec des trucs d'exemplaires que comme s'ils en avaient imprimé 15 000, quoi. Alors que c'est pas le même marché, c'est pas la même réalité. D'ailleurs, moi j'ai une clause dans le dernier contrat qui est assez rigolote, c'est qu'en gros, au moins elle est ouverte, la clause, comme disait Fabien. En gros, c'est une clause qui dit que de toute façon, comme pour le moment ils n'en vendent pas, ça vaut pas le coup de négocier. Mais si jamais cette partie devenait un acteur du marché important, on pourrait peut-être renégocier. Mais bon, c'est tourner comme ça, à dire au doigt, c'est presque gag en fait.
Si je peux me permettre juste une parenthèse par rapport justement à ce que vous dites, parce que moi je connais pas du tout le milieu de la BD, mais en termes de livres, il est important de signer un contrat différent de son contrat de base. Un contrat numérique, c'est deux contrats différents. Et il faut vraiment se battre pour ça.
Voilà. Ouais, il y a deux ans, le syndicat des auteurs de BD, ils ont essayé de négocier avec les grands patrons de bande dessinée pour essayer justement d'avoir un contrat numérique, d'avoir un truc. Ils ont obtenu des trucs, mais ça va être un travail de longue haleine et ils y sont toujours, quoi. Donc ça fait un petit peu avancer le machin, mais ils sont quand même face à un mur. En tout cas, dans la bande dessinée, quoi. Après, la bande dessinée, c'est encore. Il y a le livre, il y a l'illustration, la bande dessinée, c'est aussi encore un monde de l'édition à part, quoi.
Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a vraiment un problème de prix de toute façon. Par rapport à des mangas ou des. Déjà, les mangas sont consultables sur Internet, ils sont tout à fait lisibles, et des gens qui traduisent, un peu comme les séries, ils traduisent. Donc, malheureusement, il y a déjà un problème de gratuité, de phénomène de gratuité et de piratage. Donc, de toute façon, il faudra vraiment qu'ils baissent les prix aussi, ça c'est super important, sinon ça ne marchera jamais. Quoi. Bon, après, c'est un autre problème, mais.
En fait, je pense que c'est, si je peux me permettre de mettre mon grain de sel, c'est un peu lié tout ça, parce que je travaille pour l'album jeunesse, et en album jeunesse, on nous dit, oh là là, attention, on ne peut pas vous donner tant de pourcentage de droits d'auteur, parce que c'est quand même un livre en couleur, il faut l'imprimer. Mais une BD, c'est exactement pareil. Mais justement, ils déplacent la problématique du coup, et en l'occurrence, pour la réalité augmentée, pour revenir sur la BD, je pense qu'en effet, de toute façon, il faut repenser le format numérique, quel que soit le format d'origine, parce que sinon ça sert à rien, c'est un simple PDF, et puis quelque part on s'en fout presque. Mais tout ce que les gros éditeurs, je parle vraiment des grosses structures, avaient en interne, graphistes, maquettistes, ils les ont virés à un moment parce que soi-disant que ça coûtait cher, et maintenant ça leur coûte très cher de payer des agences qui vont faire de la réalité augmentée pour le terme large. Mais quelque part, ça s'en mord les doigts parce que c'est eux qui ont viré ces gens-là. Maintenant, ça leur coûte cher parce qu'ils prennent des freelances ou des trucs forcément qu'on facture très cher. Et c'est eux qui auraient dû prévoir à l'avance le numérique. Là, en fait, le numérique tombe surtout en France, tombe sur le coin du nez de tout le monde et en l'occurrence, au final, sur les illustrateurs-auteurs. Mais dans d'autres pays, en amont, il a été très bien pensé. Et je pense qu'en effet, il faut faire de la réalité augmentée pour employer un terme large, quoi.
Alors, juste des petites questions techniques par rapport au métier. Alors, d'une part, la charte, par exemple, il faudra peut-être leur signaler, ce serait bien qu'ils actualisent leur site pour mettre les tarifs à jour. par exemple. Les tarifs d'intervention de la charte. Les tarifs d'intervention journée, tu sais.
Ils ont été mis à jour. Il y a un petit bug sur la plaquette, mais elles viennent d'être revotées. Et donc, le mois dernier...
Alors, parce que du coup, les nouveaux tarifs, c'est quoi, alors, du coup, parce que,
alors,
dernièrement, c'était les tarifs, c'était 398 euros hors taxe la journée, mai 2011. Donc, ça veut dire qu'en mai 2012, ils auraient dû normalement être modifiés.
Elles ont été modifiées, sont applicables, en fait, sur l'année... après, donc c'est le temps de mettre en place les trucs. Parce que les structures en fait administratives.
Donc c'est encore ce tarif là.
Jusqu'à l'année prochaine, de ce que j'ai compris, ce serait ça. D'accord. Ça a été voté en augmentation du coût de la vie à une augmentation de 2%, ce qui fait 406 euros.
Ce que vous pensez alors du juste cuisine interne encore, c'est l'histoire des interventions, par exemple au niveau AGSA, hein, au niveau de vos. Vous êtes les deux aussi concernés, j'imagine.
Formation.
Vous êtes en quoi, AGSA?
Moi, je suis
belge.
Oui, ok. Ouais.
Je sais pas ce que c'est l'AGSA.
D'accord.
Moi, je suis à Besançon des artistes, mais
trop de la chance.
C'est quoi la question?
Non, ma question, c'était comment vous vivez en interne le fait d'être, par exemple, d'avoir des interventions scolaires et que ce ne soit, pas réintégré, par exemple, dans vos...
Maintenant, elles sont considérées comme des droits d'auteur, les interventions.
Oui, mais pas. Enfin, il y a quand même encore une. Il y a une limite. Enfin, tu vois, il y a un truc de vicieux au niveau de la GSA, je ne me souviens plus de.
Oui, de toute façon, à la base, la GSA, c'est compliqué. On a l'impression que c'est fait exprès, mais.
Oui, voilà. Mais bon, voilà, bref, c'était une question interne, mais a priori.
Alors,
s'il y en a deux sur quatre qui ne sont pas concernés, c'est pas la
peine. C'est important, même pour ceux qui sont à la maison des artistes, donc que vous touchez des droits d'auteur, j'imagine.
Puis on va libérer la salle.
On va dire que. Non, mais les avaloirs sont considérés comme droits d'auteur. Donc, il est important quand même de suivre au niveau des AGSA. Et à partir de 8000 euros par an, vous êtes obligé d'adhérer aux AGSA. Je parle pour les personnes françaises.
C'est 7600 à l'AGSA, un truc comme ça.
Là, on a eu une formation récemment, ils disaient que c'était 8000.
Ah bon ?
Où c'est obligatoire d'être adhérent. Parce que tu es obligé de cotiser en plus, évidemment, mais sur un système de retraite qui est largement plus avantageux que les autres corps de métier. Mais sinon, oui, les AGSA.
Je voulais pas rebondir là-dessus, mais rebondissons, parce qu'il y a un truc vicelard. Il y a un truc vicelard au niveau donc, des AGSA. C'est par exemple, si tu fais pas ces 8000 en droit d'auteur, tu n'es pas censé pouvoir adhérer aux AGSA.
Tu cotises pour la cause globale.
Voilà, mais il te renvoie autour des. À l'URSSAF, admettons, en te disant votre dossier va être étudié. Et là même une belge peut comprendre.
C'est aux impôts.
Comment ?
Non, c'est aux impôts, parce que si tu déclares des. On est dans un truc super fiscal, mais si tu déclares des bénéfices non commerciaux, ça rentre dans ce domaine-là. Si tu dépasses le seuil des bénéfices non commerciaux qui sont en dessous
de. Mais c'est pas. Non, je parle.
C'est là où il y a des problèmes, en fait.
Oui, non, mais là, je parle pour l'adhésion à AGSA. L'adhésion à AGSA, il faut faire un minimum de droits d'auteur pour avoir accès aux AGSA.
La première année,
en fait,
or,
par la sécu,
voilà. Or, ce minimum, il est remis chaque année en question en fonction de tes chiffres.
Ah oui.
Et par exemple, mettons, tu fais 5000 de droits d'auteur livres et 4000 de formation scolaire, admettons. La GSA te répond que tu n'es pas susceptible d'être adhérent. Parce que t'as pas 8000 de droits d'auteur pur, tu passes en commission, et si la commission accepte ta candidature, les chiffres de la formation scolaire, en fait, sont réintégrés pour ta cotisation. Ça, je trouve ça vicieux.
Une question un peu technique. Moi, je pensais naïvement qu'une fois que tu cotisais aux AGSA, c'était un fait. On ne pouvait plus bouger.
Ça aurait été cool. Non, chaque année, c'est remis en question. Ça m'a valu mes derniers cheveux.
Tu peux vendre des originaux, droits d'auteur, payer pour la prestation.
AGSA et MDA, c'est différent.
Mais quand t'as mis un pied dans la maison des artistes, tu vas rester dans la maison des artistes, tu vas quand même faire tout ça.
Non, c'est pas.
Si tu fais pas ton chiffre chaque année.
Non, mais si tu fais pas ton chiffre. Je parlais de casquette, tu vois.
La casquette MDA, AGSA, elle est compliquée, mais à terme, de toute façon, ce qui est pressenti, c'est une fusion des deux, vu que l'actuel président chapeaute les deux. Maintenant, je ne sais plus quel est son nom, mais il est depuis un an
le président de l'AGSA. Non, mais j'ai pas un statut d'artiste.
Mais on a installé.
Non. En Belgique, t'es employé ou t'es indépendant, et puis c'est tout.
Mais oui, non, il nous faudrait en effet le statut d'intermittent et il faut le revendiquer, je pense. Mais c'est loin d'être facile. Déjà, quand on voit le statut d'intermittent.
On se casse la main, voilà. Tu n'as pas de.
Tu pleures.
Ouais. Tu peux plus bosser et voilà, t'as rien.
Mais c'est que tu casses la main, c'est les deux mains d'ailleurs.
Tu me casses une main, c'est fini quoi.
Quand je casse une main, j'ai droit à 6 mois de chômage.
Tu cotises aussi pour le chômage, mais tu n'as pas le
droit. Ouais, c'est ça.
Mais on va dire que c'est comme un commerçant, mais comme un commerçant, il y a son magasin que nous, non.
Ouais, mais c'est.
Tu entends ça en fait, c'est parce que c'est un métier passion.
Si Elvire, elle se casse la main, elle a droit à 6 mois qu'on...
Parce que...
Tous en Belgique.
En fait, ils sont pas...
Dédommagement par rapport à son chiffre.
Coussi-coussa, parce qu'en fait, je paye des assurances sociales comme un médecin ou un avocat, après, enfin...
Après, on rentre dans des domaines techniques qu'il faut aussi creuser sur ces... Est-ce que quelqu'un qui cotise aux AGSA n'a pas le droit, justement, à cette aide s'il se casse la main? Honnêtement, c'est des textes et des textes...
Bon, messieurs, dames, je vais vous remercier pour votre
aimable participation. Merci pour
ce courage.
Bravo, merci.
Ce courage devant cette salle abondante et débordante d'énergie.
Ça vous a permis d'étaler pas mal
de choses. Donc, on remercie le public. Ouais, c'était lui, le public.
C'était un truc sur l'image.
On va pouvoir reprendre la vie normale.